Cours de critique par le père Philippe à Saint-Joseph, le 24 février 1987.
Nous étions arrivés donc au plan critique, au passage de l'appréhension et du jugement. Alors avant de continuer, je lis ces questions. Peut-on parler de démonstration a posteriori pour la découverte de l'intellect agent dans un point de vue critique? Il semble bien que l'intellect agent soit saisi comme un principe. Démonstration a posteriori n'est-elle pas plus un regard de philosophe du vivant? Oui, je vois ce qu'il veut dire. Nous sommes dans une attitude réflexive. Donc, d'une certaine manière, il n'y a plus de démonstration a posteriori et d'induction. On cherche toujours le fondement. Et c'est peut-être cela qu'on doit bien comprendre. Au plan critique, on cherche la raison sine qua non. Ce qu'on doit poser. Parce qu'autrement, ce qu'on constate ne pourrait pas exister. Si B existe, il faut que A existe. B existe, c'est le concept. C'est le concept et l'image. Le concept universel, l'image singulière. Il faut expliquer le passage de l'un à l'autre. Pour expliquer ce passage de l'imparfait vers le parfait, il faut une source en acte, qu'est l'intellect agent. Vous voyez ? Donc c'est une réduction. C'est pas une démonstration a posteriori. Ça a quelque chose de la démonstration a posteriori, puisque je fais appel au principe. Tout ce qui est en puissance dépend de ce qui est en acte. Donc je fais appel à cela. Ce n'est pas une induction, puisque, au sens strict, c'est la constatation des deux qui existent, dont il faut essayer d'expliquer leur existence. Donc ce n'est pas au sens strict une induction. L'intellect agent au sens strict n'est pas un principe distinct de l'intelligence présente dans l'acte de pensée. Donc, c'est, je crois, une réduction critique comme condition sine qua non. Je ne peux pas expliquer la pensée intellectuelle sans poser dans le vivant spirituel, qui est l'homme, un principe actif dans l'ordre de l'intelligence. Autrement, l'intelligence ne serait plus un vivant. Elle n'aurait plus d'autonomie vitale. Elle se meut. Or, pour qu'elle puisse se mouvoir, il faut nécessairement qu'il y ait une source dans l'ordre intellectuel. Alors, je dirais, du côté philosophie du vivant, c'est autre chose. Il y a une démonstration, une certaine induction, si vous voulez, pour poser le nous, l'intelligence, source de ça suffit. Le comment de cela, je le rejette en critique. Parce qu'il s'agit d'expliquer le comment. Et en philosophie du vivant, c'est pas le comment ce que je cherche, c'est les principes. De sorte que c'est plus simple en philosophie du vivant. C'est beaucoup plus rapide. Toujours la critique. Vous voyez, c'est la recherche du comment. C'est ça qu'il faut bien vous mettre dans la tête. Philosophie réflexive, recherche du comment. C'est en ce sens-là qu'il y a une parenté avec Hegel. Comment demeurent les concepts? Peut-on parler d'une mémoire intellectuelle? Les concepts y demeurent parce qu'il n'y a pas de danger qui disparaisse. Je suis dans un domaine qui n'est plus du devenir, puisque je suis au-delà de la matière. Et le devenir spirituel implique l'immanence, donc il demeure. Quand vous avez compris quelque chose, vous l'avez compris pour l'éternité. C'est ça qui est merveilleux. Intellectuellement, quand vous avez compris quelque chose, vous l'avez compris pour tout le temps. Alors vous allez dire, mais j'ai peur de l'oublier. Ah oui, vous avez peur de l'oublier parce que vous n'y pensez plus. Quand vous ne pensez plus à l'intellect agent, et vous n'y pensez plus, il tombe dans le puits. Et il suffit de vous le rappeler pour que vous réactuez ce qui a existé. La mémoire, au niveau de l'imagination, implique la succession du temps. Se remémoriser, c'est se rappeler quand on a rencontré telle personne. C'est ça la mémoire. La mémoire vieillit, ça c'est sûr. Avec l'âge, la vue, l'ouïe, la mémoire tend à disparaître. C'est très vrai, ça fait partie du vieillissement du corps. L'âme ne vieillit pas, heureusement. L'âme ne vieillit pas, donc l'intelligence ne vieillit pas. Elle n'a pas d'âge, l'intelligence. Elle dépend du devenir physique, c'est sûr, dans son exercice. Mais en elle-même, l'intelligence n'a pas d'âge. Donc, les concepts en eux-mêmes sont en dehors du devenir. Dès que vous avez saisi quelque chose, vous l'avez saisi. Et si vous l'oubliez, c'est parce que vous êtes distrait, vous êtes pris par autre chose. Vous ne faites pas tout le temps de la métaphysique. Heureusement pour vous. Empêchements prohibants pour l'ordination, et ainsi de suite. Vous savez ça par cœur. Il faut le savoir par cœur. Faut pas les comprendre, il faut le savoir par cœur. C'est très différent, la mémoire et l'intelligence. Il n'y a pas de mémoire de l'intelligence. Mais il y a des obstacles à l'intelligence. Et quand on sait et qu'on connaît ces obstacles, il y a le bulldozer qui écarte tout ça pour que les voies soient nettes. Il y a un Jean-Baptiste qui est là pour aplanir la voie du Seigneur. Et une fois que les voies sont aplanies, immédiatement, notre intelligence est en acte. Si on a fait l'effort de comprendre, c'est là où on voit l'importance des cours. Parce que dans les cours, on est normalement en présence d'une intelligence qui connaît avant nous, qui est en acte. Alors, elle nous actualise. Et ça va plus vite. Tandis qu'un livre, c'est écrit. C'est pas en acte. C'est pour ça qu'un livre permet de garder ce qu'on a connu. Mais c'est de l'ordre de l'extension. C'est pas de l'ordre de la compréhension. C'est très curieux. Il y aura toujours quelque chose qui restera. C'est le contact d'une intelligence en acte vis-à-vis d'une intelligence qui reste encore en puissance. Dans une perspective kantienne, où la connaissance se réduit à l'appréhension, s'agit-il de concepts ou d'idées? On ne peut plus faire la distinction. Depuis Occam, on ne fait plus la distinction. Puisque c'est ce qu'on connaît, c'est le concept. Donc c'est l'idée. Le quoi s'est transformé en quoi? Les formes a priori sont connues. Et les formes a priori servent comme de formalisation pour toute la connaissance. Donc, c'est ce qui est connu. Alors, continuons. Je vous disais, en terminant, je crois, la position d'Occam par rapport à ce passage de l'appréhension et du jugement. Ayant isolé l'appréhension du jugement, l'ayant mise comme première, comment rejoindre le jugement? Par une addition. Plusieurs appréhensions sont liées ensemble et donnent un jugement. Le jugement, c'est l'accumulation d'appréhensions, bien collées les unes aux autres, ou mal collées et donc séparées. Vous savez, l'affirmation et la négation. L'affirmation se réduit donc à une addition, et la négation se réduit donc à une soustraction. Pierre n'est pas intelligent. Je soustrais de Pierre intelligent. Pierre est intelligent. J'ajoute à Pierre intelligent. C'est un avoir. J'additionne ou je soustrais. Mais je reste dans la même ligne. Donc, il y a un progrès quantitatif d'addition. Mais il n'y a pas quelque chose totalement nouveau. Je demeure donc dans l'ordre du concept et donc de la forme intentionnelle. J'additionne des formes intentionnelles entre elles. Et la grosse question qui se pose, c'est savoir si ces formes intentionnelles existent. Comme comment rejoindre l'exister, puisque l'appréhension me met au-delà de l'exister. Comment le rejoindre? C'est par les sensations qui viennent s'ajouter, on ne sait pas trop comment, qui viennent s'ajouter, qui me permettent de rejoindre le réel. Et le jugement d'existence, c'est l'universel plus ses sensations. Et donc le jugement d'existence ne me fait pas pénétrer dans la réalité existante. La réalité existante demeure un mur, le noumen. Je m'affronte à cela. Le noumen de Kant. J'enveloppe la réalité existante de toutes mes formes intentionnelles. C'est un très beau coton. Je les enveloppe. Et la forme, le noyau central, la réalité existante, je ne l'atteins pas. Je me heurte à elle. Et je crois que ça, c'est vraiment ce que nous voyons chez Occam, ce qu'on voit chez Descartes, ce qu'on voit chez Kant. C'est très curieux, ça. Il y a quelque chose d'analogue. Hein. C'est différent, non, je trouve des cas différents, mais c'est quelque chose d'analogue. En réalité, si j'ai compris que ma réflexion critique partait du jugement, mais ne pouvait pas s'arrêter au jugement et devait découvrir l'appréhension, de l'appréhension, je reviens au jugement. Et je vais essayer d'expliquer maintenant quel est l'abîme qui existe entre l'appréhension et le jugement. Et pour expliquer quel est cet abîme, il faut d'abord comprendre ce que c'est que le jugement. Autrement dit, je suis parti du jugement. Seul le jugement est parfaitement conscient. J'ai réfléchi sur le jugement. Prenez ceci et je prends exprès le jugement le plus simple qui soit. Ceci est. C'est difficile d'avoir un jugement plus simple que celui-là. Ceci est. J'ai réfléchi. J'ai vu qu'il y avait une dualité, le nom et le verbe. Que cette dualité ne pouvait pas être première. Donc, il fallait de là remonter à une opération antérieure que j'ai découvert être l'appréhension. Maintenant, je passe de cette appréhension pour voir quel est le lien qui existe entre les deux. Vous voyez, il y a un mouvement d'aller, un mouvement de... une découverte de l'appréhension. Ayant découvert l'appréhension, je me pose la question, quel est le lien entre cette appréhension et ce jugement? Et je suis parti de ce jugement, donc j'ai parfaitement le droit de le faire. Je reviens au jugement. Je dis, qu'est-ce que c'est que le jugement? Pour comprendre la relation exacte qui existe entre appréhension et jugement, il faut savoir ce qu'est l'appréhension, ce qu'est le jugement. Vous comprenez bien que si le jugement est une opération qui a son autonomie propre, ce n'est pas l'appréhension qui explique le jugement. C'est plutôt l'inverse. C'est le jugement qui exige l'appréhension. Et donc, quand j'ai compris que c'est le jugement qui exige de poser l'appréhension, je ne vais pas demander maintenant à l'appréhension d'expliquer le jugement. Ce serait le serpent qui mord sa queue. C'est illogique, vous voyez. Quand on veut être trop logique, on devient illogique. C'est le défaut d'Occam. Et de tout ce suivant Occam en mettant la logique au-dessus de tout. Toujours c'est comme ça, vous voyez. Descartes veut être clair, il est très obscur. Quand vous recherchez la clarté pour la clarté, vous êtes obscur. Il ne peut pas être autrement. Et c'est comme celui qui cherche la simplicité pour la simplicité. Il est incompliqué. Parce que c'est pas ça qu'on cherche, c'est la finalité qu'on cherche. Qu'est-ce que c'est que le jugement? Le jugement, c'est un acte parfait d'intelligence. Je peux m'arrêter au jugement, tandis que je ne m'arrête jamais à l'appréhension. Je la saisis comme un moment. Mais je m'arrête au jugement. Le jugement est un acte parfait d'intelligence. Un acte conscient. Je sais quand je juge. L'intermédiaire du jugement, je sais quand j'appréhende. Mais l'appréhension est toujours liée à l'expérience qui implique un jugement. Alors, qu'est-ce que c'est que le jugement? Le jugement, c'est avant tout une adhésion. L'appréhension est une assimilation. Le jugement est une adhésion. Sartre dirait, c'est embrasser l'arbre. Adhérer, c'est embrasser. On se jette au cou de quelqu'un. C'est une adhésion parfaite. Quand je dis ceci est, je constate qu'il y a une réalité autre que moi. Pour qu'il puisse y avoir adhésion, il faut nécessairement une dualité. L'assimilation, au contraire, conduit à l'unité. L'assimilation implique l'identité, l'unité. Le jugement, qui est une adhésion, on adhère, implique la dualité. Il y a toujours deux dans le jugement. Il y a la réalité que j'affirme, mon affirmation. Et je sais que mon affirmation est autre que la réalité que j'affirme. Quand je vous dis vous existez, je veux dire vous n'êtes pas moi. Et quand je dis j'existe, je veux dire que mon existence n'est pas ma pensée. Et c'est vrai. Parce que vous continuez d'exister quand vous dormez et vous ne pensez plus. Votre pensée s'éteint avec votre électricité tous les soirs. Vous l'arrêtez. Et vous continuez d'exister. C'est très curieux, ça. Donc, dans tout jugement, il y a une dualité. Toujours. Et j'y adhère ou je n'y adhère pas. Adhésion ou non-adhésion. Vos jugements impliquent une possibilité de ne pas adhérer. Vous adhérez, vous n'adhérez, vous pouvez pas adhérer. C'est complexe, voyez, le jugement. Si l'appréhension est simple, le jugement n'est pas simple du tout. C'est du reste pour ça que je ne me suis pas arrêté au jugement, pour trouver l'élément. Mais je reviens maintenant au jugement pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans le jugement. Ceci est, ceci n'est pas. Donc, il y a quatre, mais dans les quatre, il y a une espèce d'unité. Hein, ça se tient. C'est organique. Puisque les deux, quand je dis ceci est, il y a une espèce d'identité qui se fait. Il y a une unité qui se fait dans la dualité. Et quand je dis ceci n'est pas, c'est extérieur à ceci est, mais c'est dépendant de ceci est, puisque la négation présuppose affirmation. Nous y reviendrons. Donc, c'est organique, hein. C'est très organique, le jugement. Ça implique adhésion et non-adhésion. Une adhésion consciente et une adhésion qui, par le fait même, peut dire « Je sais que j'adhère. Chaque fois que vous jugez, vous pouvez dire ça. Je sais que j'adhère. Je sais que je n'adhère pas. Et je peux réfléchir pour comprendre que cette adhésion est conforme à la réalité. Et je pourrais dire, je sais qu'en affirmant que ceci est, je suis dans la vérité. Vous voyez comme c'est complexe le jugement, et comme c'est riche. Avec le jugement apparaît l'adhésion, la possibilité, la conscience, la possibilité de réfléchir sur cette adhésion et la possibilité de comprendre que je suis dans la vérité. Donc le problème de la vérité apparaît avec le jugement. Oui, j'essaie de comprendre tous les problèmes qui sont connexes au jugement. C'est quelque chose de très très riche. L'appréhension est simple. C'est pour ça que tu restes qu'on dit appréhension est simple. Elle n'a pas la complexité du jugement, elle n'a pas la richesse du jugement. Et au fond, la vérité apparaît bien comme ce qui permet à l'intelligence de se reposer. Quand je dis ceci est, et je sais que c'est vrai, je peux me reposer. Tandis que quand je dis ceci est, et je ne sais pas si c'est vrai, je suis obligé de continuer ma recherche. Je constate ça. Donc, la découverte de la vérité permet le repos. Et l'intelligence ne se repose que dans la vérité. Tant qu'il n'y a pas de la vérité, pas tant que je n'ai pas conscience d'être dans la vérité, mon intelligence, si elle est vivante, ne se repose pas. Elle cherche où elle peut se reposer. Qu'est-ce qui va expliquer toute cette richesse du jugement? C'est l'objet propre du jugement. Qu'est-ce qui détermine le jugement? C'est une opération autonome qui, par le fait même qu'elle est autonome, a donc nécessairement sa détermination et sa spécification. Alors, qu'est-ce qui détermine et spécifie le jugement? Quel est l'objet propre du jugement? Nous avons vu que pour l'appréhension, c'est l'acuité. Qu'est-ce qui détermine le jugement? Je prends alors le jugement le plus simple, parce que c'est toujours à celui-là que je reviens. Ceci est. Qu'est-ce qui détermine ce jugement? Qu'est-ce que vous saisissez quand vous dites ceci est? Vous saisissez l'existé de du ceci. Vous voyez bien que toute la force de l'adhésion, c'est est, donc existe. C'est le ceci est. C'est pas le ceci qui est éclairé en premier lieu. C'est est dans une adhésion. Parce que quand vous dites ceci tout seul, n'y adhérez pas. Parce que ceci, c'est possible que ça n'existe pas. Qu'est-ce que c'est que ce ceci? Vous ne savez pas. Ceci est. Vous le montrez du doigt. Et donc, toute la lumière du jugement, c'est l'exister. Tout ce qui détermine le jugement, c'est l'exister. Vous pouvez prendre des jugements plus complexes. Pierre est intelligent. C'est déjà beaucoup plus difficile de vérifier si c'est vrai. Pierre est intelligent. Quand vous dites Pierre est intelligent, sur quoi porte le jugement? Le lien qui existe entre Pierre et intelligent. C'est ce lien qui m'intéresse. Donc, c'est l'intelligence en Pierre. C'est encore le point de vue de l'exister. Pierre existe, il est intelligent. C'est appliqué quand vous dites Pierre est intelligent. Autrement, vous devriez dire Pierre a été intelligent. Il était toujours premier de classe. dans le jugement. Le jugement ne peut pas se séparer du temps. Connote le temps. Et donc, par le point de vue de l'exister. Tandis que l'appréhension est en dehors du temps. Quand vous dites « chat », vous appréhendez le chat. Vous dites « homme ». Tandis que quand vous dites « pierre », ah, c'est autre chose. Pierre, il est dans tel lieu, dans tel temps. C'est cet individu. Cet individu est intelligent. Dans le chemin d'existence, vous rassemblez deux choses différentes. Et grâce au jugement d'existence, vous pouvez faire que intelligent devient relatif à Pierre. Et s'identifie avec Pierre. Donc, vous avez cette chose très particulière que dans un jugement plus complexe, Pierre est intelligent. C'est encore l'exister qui permet l'identification. Pierre est intelligent. Pierre n'est pas intelligent. C'est donc encore l'exister, mais un exister qui se donne selon une modalité nouvelle. Et cette modalité, c'est Pierre, c'est intelligent. Mais c'est quand même et le fait qu'ils existent qui permet d'affirmer que Pierre est intelligent. L'exister du sujet, l'exister du prédicat, unifié dans l'affirmation Pierre est intelligent. C'est ce qu'on va appeler, je vous l'ai dit dans le terme habituel, scolastique décadente, la copule. Ce qui unit les deux. Mais comprenez bien, et c'est ça sur laquelle porte l'intelligence. C'est l'unité des deux. On doit savoir ce qu'est Pierre, on doit savoir ce qu'est intelligent, mais dans l'affirmation, Pierre est intelligent, c'est le lien entre les deux qui est la fine pointe de l'affirmation. C'est ça à laquelle j'adhère. Il y a présupposé deux choses, présupposé et Pierre. Mais ce qui est important, c'est que l'intelligence, elle est dans Pierre. Ce qui permet de dire à saint Thomas que l'objet propre du jugement c'est l'ipsum esse rei. L'ipsum esse rei, c'est l'exister même de la chose. Le jugement porte sur l'exister. Je peux avoir des jugements qui portent sur sur les possibles. Tout ce qui est possible. Et tout ce qui est possible est en dehors de l'existé actuel. Mais il est en référence avec l'existé. Un jour, il pourra exister. Adam a existé. L'antéchrist existera. Où il est actuellement. Ça dépend des visions théologiques. Mais c'est toujours la référence avec le temps. C'est ça qui est très important. Ce qui est très curieux. Le jugement applique toujours cette référence avec le temps. Parce que le jugement touche l'être et le devenir. Et c'est vrai. Le jugement fait apparaître cette dualité très particulière du nom et du verbe. C'est dans le jugement qu'apparaît le nom et le verbe, pas dans l'appréhension. L'appréhension regarde des termes abstraits, des termes qui ont une signification universelle. Vous voyez, autre chose est dire anima. J'appréhende animal. Autre chose est dire cet animal. Existe. Je suis en face du jugement. Le nom est toujours pris d'une façon concrète. C'est le suppos. Supponit. Il est capable de recevoir une affirmation extrinsèque. Pierre est intelligent. Donc il y a le nom et le verbe. Ce qui est très très curieux. Alors là, c'est un phénomène très spécial. C'est le jugement qui atteint le verbe. Et quand je disais, dans le jugement, ceci est, l'important c'est est, ça veut dire le verbe. Pourquoi ? Parce que le verbe actue le sujet. Le sujet, ceci, est actué par le verbe. Et donc c'est bien le verbe qui est l'ultime chose que le jugement saisit. Animal, c'est un nom. N'importe lequel, c'est un nom. C'est pas un verbe. L'appréhension ne saisit pas le verbe. Le jugement saisit le verbe. Ça, c'est au fond très, très curieux. Qu'est-ce que ça correspond quand on dit que le jugement saisit le verbe? Qu'est-ce que ça représente? Ça nous montre tout de suite, et c'est ça l'important au point de vue critique, que le jugement saisit autre chose que l'appréhension. Ce que Occam n'a pas su voir. Et par le fait même, le jugement n'est pas une addition d'appréhension. Le jugement saisit autre chose, quelque chose d'irréductible par rapport à l'appréhension. Il y a donc dans le jugement une opération sui generis, une opération originale de l'intelligence elle-même qui dépasse l'appréhension pour rejoindre le réel dans ce qu'il a de tout à fait propre. Son exister. C'est propre du jugement, ça. Ça, c'est capital de saisir ça, au point de vue critique. Que le jugement est donc une opération sui generis, quelque chose d'unique que je constate. Je ne peux pas ramener le jugement à l'appréhension. Je ne peux pas ramener l'appréhension au jugement. Je suis donc en face de deux opérations distinctes, autres, toutes les deux provenant de l'intelligence. Toutes les deux provenant de l'intelligence. Mais étant tout à fait différentes. Et l'appréhension me montre, puisque l'appréhension, je veux dire, et le jugement, étant une opération plus parfaite, me montre l'appétit ressenti le plus foncier de l'intelligence. L'intelligence, comprenez bien, aime mieux juger qu'appréhender. Parce que l'intelligence est plus en acte dans le jugement que dans l'appréhension. Et c'est pour ça que le jugement est une opération parfaite. On aime toujours mieux là où on est plus parfait. Hein. Si on a bon goût. Aimer l'imparfait, ce qui est imparfait, c'est dommage. C'est d'être des petits vieux avant l'âge. On aime mieux toujours ce qui est parfait. Parce qu'on tend vers cela. Et donc l'intelligence tend plus profondément au jugement que vers l'appréhension. Et c'est ce qu'avait mis très en lumière le père Maréchal, toute l'école de Louvain avait mis ça très en lumière. L'appétit de l'intelligence. L'intelligence a un appétit naturel vers le jugement. Et c'est quelque chose de plus fondamental. L'intelligence est faite pour discerner et juger. Et pour discerner et juger, elle a besoin de l'appréhension. Mais l'appréhension n'est pas la finalité du jugement. C'est cet appétit de l'intelligence, cet appétit de l'intelligence de juger, de discerner pour atteindre la vérité. Parce que cet appétit est par rapport à son bien propre qui est la vérité. Or, pour pouvoir atteindre la vérité, il faut qu'elle discerne, qu'elle juge. Donc, on saisit là ce caractère tout à fait nouveau du jugement, qui est l'intelligence atteignant l'exister, donc atteignant l'être. Et vous commencez à comprendre alors l'affirmation de saint Thomas. Primo cadit in intellectus ens, c'est-à-dire ce qui est. Voyez, c'est ça l'équivoque qu'il y a eu. C'est que en latin, ens est simple. Saint Thomas dit toujours ens, id est, quod est. Très joli, hein. Saint Thomas dit toujours ens. Quod est. Traduisons. Ens, c'est-à-dire id est. C'est-à-dire quod est. L'avantage du quod est, c'est qu'on croit que c'est deux. Tandis que ens, on croit que c'est un tout. La tentation de dire ens, il est appréhendé. Je saisis par l'appréhension ens. Quelque chose qui passe avant le jugement. D'où on et que le jugement a son objet propre. Et donc l'intelligence, quand elle juge, elle saisit dans la réalité quelque chose que l'appréhension ne saisit pas. Et donc je ne peux pas tout ramener à l'acuité. L'intelligence saisit par le jugement quelque chose que l'appréhension ne saisit pas. Et ce quelque chose qu'elle saisit, c'est justement l'ipsum esse rei. C'est l'exister de la réalité. Vous voyez donc bien, quand vous voyez ça, vous comprenez bien l'importance de ce moment de l'intelligence en contact avec la réalité. Et vous voyez bien que c'est ce contact privilégié de l'intelligence avec la réalité dans laquelle elle adhère à la réalité, qui est ce qu'il y a de principal dans la vie intellectuelle. Ce n'est pas l'appréhension. L'appréhension est présupposée. On verra les liens entre l'appréhension et le jugement. L'appréhension est présupposée, mais ce n'est pas ce qu'il y a d'essentiel. C'est essentiel, mais ce n'est pas premier. Ce n'est pas le principal, si vous voulez. Le principal, c'est ce contact de l'intelligence avec la réalité. Aristote dira le toucher, tingein. L'intelligence touche la réalité. Autre chose est touchée, autre chose, l'assimilation. L'appréhension est une assimilation. Le jugement est un toucher permettant le discernement.